Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous êtes à l'écoute des débats ultimes sur la plateforme Radio Royale. Cette semaine, la question, quel avenir donner au circuit universitaire québécois? Et c'est un énorme sujet dont je vais avoir le plaisir de discuter avec deux expertes du circuit universitaire québécois. En premier lieu, je parle d'une joueuse qui est originaire d'Alma, qui a commencé à jouer au secondaire, puis à jouer dans les Myrmidons. Elle a déménagé à Québec pour ses études universitaires, où après, elle s'est jointe à Karma. Puis, joue maintenant avec Iris depuis 2016. Elle est aussi joueuse et membre du CA de l'université, en fait, de Ultimate Université Laval. Il s'agit de Virginie Maltais. Salut, Virginie.
Bonsoir.
Ça va bien?
Ben oui, ça va super bien, merci.
Cool. Bon, on va passer une très belle heure ensemble. Je pense que ça va être très, très, très plaisant. T'as l'air d'avoir des opinions quand même sur le circuit et puis quant à son futur. Donc, je pense que ça va être très intéressant de discuter de ça avec toi.
Merci.
La seconde joueuse, en fait, exerce le sport d'ultimate depuis la fin de son secondaire. Elle s'est impliquée dans la région et le développement du sport l'année suivante, particulièrement dans le junior. Elle a été entraîneur des équipes provinciales juniors de 2013 à 2019. Elle a créé le programme Vert et Jaune de l'Université de Sherbrooke, maintenant reconnu comme le Vert et Or. Elle fait partie de Team Canada Junior. Elle a fait partie de Team Canada Junior, pardon, Exo Gecko, et joue avec Iris depuis 2015. Vous avez assurément reconnu Corinne Massé. Salut Corinne.
Bonjour.
Ça va bien?
Très bien, merci toi.
Ben oui, ça va très très bien. Merci beaucoup. Pour commencer, en fait, il y a Guillaume Prougoulet de la FQU qui nous a fait une vidéo pour expliquer un petit peu le circuit universitaire québécois ainsi que un peu les choix dans le futur qui peuvent s'offrir là au frisbee au ultimate universitaire ainsi que quelques avantages et désavantages. Donc je pense qu'en premier lieu on va aller écouter le vidéo pour se mettre dans le bain un petit peu. OK. Donc bon, visiblement on a des petits problèmes techniques, on est encore à apprivoiser un peu le système et de faire jouer des vidéos. Donc on va essayer de le faire jouer mais dans quelques en fait quand ça va fonctionner, on va commencer on va parler du circuit actuel. Que Guillaume va nous décrire. Si jamais on n'a pas le vidéo, là, on va entrer un petit peu plus dans les détails. Circuit actuel, on commence. Je voulais y aller avec des étapes. Des étapes ou plus des éléments, comme le calendrier, les coûts, en fait. Et puis, j'aimerais qu'on puisse débattre des côtés ou des bons côtés un peu de ces éléments-là. Justement, le calendrier. Le calendrier de la saison universitaire au Québec, ça joue l'automne. C'est un calendrier qui est très, très court. C'est une critique de beaucoup de gens, en fait. On va commencer avec Corinne. Est-ce que le calendrier est un élément qui est plus nuisible un peu ou c'est un élément qui comporte quand même des bons côtés pour le circuit universitaire?
Oui, c'est sûr que un des bons côtés, c'est du fait que majoritairement nos joueurs proviennent du civil, donc leur saison, ils l'ont déjà un petit peu dans le corps, comme on dit. Ça veut dire qu'ils sont déjà un peu fatigués. Fait que c'est sûr que l'avantage d'une saison courte, il y a de ça. Malheureusement, dans les plus petites universités comme à Sherbrooke, par exemple, c'est pas beaucoup de joueurs qui proviennent du civil, mais on a beaucoup de recrutement à faire. Donc, avec une saison qui est très courte, ben moi, j'ai l'équivalent de 6 à 7 semaines dépendant du tournoi final pour essayer de former une fille qui a peut-être jamais ou très peu lancer le disque. Donc, le fait que le calendrier soit très court, pour nous, pour les universités, finalement, notre défi, ça devient un recrutement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on les prend à l'automne, on fait notre possible, mais nous, on continue quand même à s'entraîner à l'hiver. Donc, on trouve des alternatives, mais c'est pas possible nécessairement pour tout le monde. Fait que ça, je pense que c'est un gros blocage.
Mm-hmm. Je crois comprendre qu'on aurait le vidéo, finalement. Alors, on va essayer de le lancer avec du son cette fois-ci.
Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce débat, cette discussion. Donc, je suis Guillaume Prougoulet, directeur général de la Fédération québécoise Ultimate, et je vais donc faire une petite introduction sur l'Ultimate universitaire. D'abord, un historique. L'Ultimate universitaire est vraiment important pour le développement du sport au Québec. C'est là où un peu tout a commencé. C'est surtout là où on a recruté le plus de joueurs et ce qui a permis vraiment de grossir et de devenir la fédération qu'on est aujourd'hui. C'est un peu grâce aux initiatives des athlètes universitaires qui ont découvert ce sport-là comme deuxième carrière souvent et qui ont mené vraiment à la popularité, qui ont fait grandir la popularité de ce sport-là au Québec. Vu la popularité, bien, c'est normal qu'Ultimate Canada et la FQU développent une offre de service pour ces athlètes-là, pour ces équipes-là qui se formaient dans les universités. Donc, on a vu apparaître le championnat canadien universitaire et par la suite la Coupe Québec, qu'on a renommée le CQUUC au Québec pour le circuit collégial et universitaire québécois. C'était donc des équipes universitaires, mais non reconnues par l'université, des équipes d'une initiative plutôt personnelle. Et les circuits canadiens et québécois amenaient, dans le fond, ont développé leur propre réglementation, ce qui permettait un peu moins sévère là, que ce serait si c'était un vrai sport universitaire. C'était aussi normal que ça se développe au niveau civil avec l'absence de l'intérêt du réseau scolaire, du réseau du sport étudiant du Québec, le RSEQ. Parce qu'il n'y avait pas d'offre de service donc au niveau scolaire, mais il y avait plusieurs équipes, beaucoup d'intérêt, donc les équipes, on a décidé de créer un circuit, de créer une offre de service. En théorie, la FQU n'a pas le droit de créer une offre de service scolaire au Québec, c'est une juridiction qui est exclusivement du RSEQ, mais donc le RSEQ tolère la présence de ce circuit-là québécois parce qu'eux ne sont pas intéressés pour l'instant de créer leur propre circuit. Le problème, c'est que le RSEQ peut décider à tout moment de créer son propre circuit universitaire et d'utiliser ses propres réglementations, ses propres règlements, son propre format de jeu et tout, et sans nécessairement consulter la fédération. C'était le cas avant, tout récemment. Pour éviter que ça se produise puis qu'on voit apparaître une ligue universitaire qui ne nous conviendrait pas à nous et à l'ensemble des équipes, à l'ensemble des joueurs là, universitaires, on a décidé de signer un protocole d'entente avec le RSEQ qui les oblige à nous consulter pour mettre en place un circuit universitaire. Donc, ce protocole-là a été signé à Noël dernier. Donc, ça se pourrait que dans les prochains mois, années, le RSEQ décide de créer un circuit. Ils devront cependant nous consulter et le travailler en collaboration avec nous. Il y a des avantages et des inconvénients si le RSEQ décide de s'intégrer et de créer un circuit universitaire. Les avantages, bien, c'est souvent qu'il va y avoir du support de l'institution en argent, en installation, en entraînement, en terrain pour aider les équipes. Ça amène vraiment beaucoup d'avantages au niveau de l'opération, au niveau des équipes. Mais les inconvénients, c'est l'obligation, donc pour le RSEQ, c'est l'obligation des étudiants athlètes d'être à temps plein à l'école, donc 3 cours minimum. Ça peut aussi amener des conflits au niveau de l'horaire avec le championnat canadien actuel universitaire parce que le RSEQ ne respectera pas le calendrier civil comme eux, ils vont vraiment y aller avec le meilleur calendrier scolaire pour eux. Il y a vraiment des avantages et des inconvénients. Pour l'instant, malgré qu'on ait signé le protocole, les équipes peuvent encore choisir leur préférence, à savoir s'ils veulent intégrer le RSEQ ou rester dans le circuit civil ou peut-être même intégrer le circuit universitaire américain. C'est pas une option que nous, pas qu'on n'envisage pas, mais qu'on a sur la table parce que c'est pas du tout de notre ressort. On n'a aucun lien avec le circuit universitaire américain, donc on peut pas avoir d'impact là-dessus. Donc, c'est un peu ça le topo que je voulais vous faire, la petite présentation. Je suis très intéressé d'entendre vos avis, mesdames, et les avis de tout le monde à ce sujet-là. Donc, on se reparle, et si vous avez des questions, bien, naturellement, n'hésitez pas de contacter l'FQ.
Donc, voilà, là, on a enfin le vidéo avec le son. On a pu entendre un peu les pour et les contre là, véhiculés par l'FQ. D'ailleurs, merci beaucoup à Guillaume Progoulet pour ces vidéos d'introduction. Il y a été beaucoup de questions dans la vidéo de la RSEQ. Je pense qu'on va pouvoir passer énormément de temps sur la RSEQ, un petit peu plus tard. Là, je veux qu'on se concentre encore une fois sur le circuit actuel. On a parlé du calendrier qui, justement, est très court. Il faudrait, là, évidemment, qu'à la mi-octobre, ce soit terminé, là, parce qu'après ça, avec la température, surtout au Canada, là, c'est vraiment loin d'être l'idéal. Par contre, si on regarde du côté d'aller faire, mettons, la saison au printemps, il y a peut-être la notion du manque de préparation qui pourrait peut-être entrer en ligne de compte. Je ne sais pas, je me dis que, bon, pour avoir joué, pour avoir fait un an avec, avec l'UQAM, on avait commencé la saison quand même assez tôt, là, dans la première semaine où à peu près ça, ça commençait, donc fin août, ce qui nous laissait un bon mois et demi pour se préparer, ce qui n'est pas l'idéal, mais si on fait la saison au printemps, en avril, ben là, faudrait, si on veut ce mois et demi-là, il faudrait commencer au mois de février. Donc, Virginie, ce serait quoi la meilleure option, mettons, là-dessus?
Ben, c'est certain que si on considère qu'on veut commencer plus tôt la saison, puis que justement, comme tu dis, disons, on commence en février, le problème avec ces gens-là, c'est les installations qu'on devrait réserver. C'est si on considère déjà que d'avoir des réservations sur le campus universitaire ou peu importe, c'est un turf synthétique à l'extérieur, ça coûte déjà assez cher pour une petite saison universitaire. Là, si on transférait à l'intérieur, les installations à l'intérieur, c'est encore plus cher. Et souvent, ce qui revient dans nos commentaires, c'est que les coûts des saisons sont trop chers pour les étudiants. Fait que là, c'est difficile d'offrir un service de qualité et pas trop cher pour les saisons qu'on a. Donc, imaginez si on la, si en plus on l'allonge, oui, on pourrait faire beaucoup de développement, mais ce serait peser le pour et le contre de ce côté-là.
Assurément. Corinne, tu as soulevé un bon point tantôt quand on a parlé du... ben en fait, quand je t'ai posé la question sur le calendrier, tu as parlé du fait que il y avait beaucoup de... Bon, tu pouvais te retrouver avec beaucoup de filles qui avaient presque jamais lancé ou beaucoup de nouvelles joueuses, en fait, qui étaient nouvelles au Ultimate. Est-ce que ça peut être un élément... je parle du niveau de jeu, en fait. Que, est-ce qu'il manque une espèce de structure au universitaire où un peu n'importe qui peut aller jouer, n'importe qui a l'intérêt, où le Ultimate universitaire est encore rendu là, où on ouvre les portes à un peu tout le monde qui veut le faire parce qu'on veut faire grandir le sport?
Je pense que ça dépend des universités. Dans les grandes universités, par exemple, ils vont avoir tendance à faire plus qu'une équipe justement pour travailler sur le développement. Dans le cas des plus petites universités, c'est sûr et certain que là, le recrutement est plus difficile. Donc, quand je regarde mon bassin, moi, que j'ai à Sherbrooke par mon expérience au niveau du féminin, bien, malheureusement, je ne peux pas me fier sur toutes des filles qui ont joué au niveau scolaire auparavant. Donc, plusieurs, puis là, de plus en plus, ce qu'on observe là, dans les dernières années, c'est que plusieurs arrivent avec une expérience de ligue. Donc, ils ont déjà joué un peu, ils ont joué compétitif un peu, ils ont joué avec le circuit en 5 contre 5. Donc, ils sont allés chercher une expérience à l'extérieur, mais ça reste que ce n'est pas une expérience de compétition comme le civil le permettrait avec des pratiques encadrées et tout ça. Donc, c'est sûr et certain que le niveau de jeu est toujours en augmentation, puis ça, on le voit. Puis, je veux dire, l'Université Laval le démontre bien, McGill aussi, quand ils arrivent avec des filles d'expérience, bien, nous, on a beau avoir un programme plus solide, l'expérience... fait encore, en fait, c'est vraiment la clé du jeu au niveau du Ultimate. Puis quand on s'en va au championnat canadien, mais on rencontre le même genre de problème. On ne peut pas compétitionner contre des grandes universités avec beaucoup de bassins de joueurs quand on vient d'une petite région avec un bassin de joueurs expérimenté moins grand.
Virginie, ton avis là-dessus, est-ce qu'on devrait pousser un petit peu plus la structure pour amener plus de try-out puis une notion d'essai? Puis de laisser quelques joueuses là au prix de la qualité, en fait, où on laisse encore entrer tous ceux ou celles qui veulent jouer pour ramener le plus de monde dans le sport.
Ben, je pense que de notre côté aussi, on veut faire une offre de service vraiment large avec l'Université Laval. On a la chance d'avoir juste une université dans une grosse ville, un gros bassin de joueurs-joueuses. Donc, le fait d'avoir autant de personnes que ça leur tente puis qui veulent se développer, tout ça, nous, c'est sûr qu'on va continuer à offrir deux équipes féminines, deux équipes masculines. On a déjà eu des discussions d'ouvrir une troisième équipe masculine parce que, justement, il y a l'intérêt qui quitte, justement, à ce que équipe 2 et équipe 3, ça serait moins fort, quitte à ce que ça soit moins fort, c'est pas trop grave à notre avis. Nous, on veut vraiment juste offrir le service aux gens, faire découvrir notre sport, puis on veut que ça bat de l'aile. On veut vraiment que ça se développe.
Virginie, je vais rester avec toi. le circuit au Québec a aussi un des reproches qui est peut-être un petit peu trop petit. Premièrement, ce n'est pas les 13 universités là, qui participent au circuit. Après ça, bon, Guillaume en a parlé dans la vidéo. Bon, il y a le tournoi CQUUC, le tournoi des cégeps. En plus, il y a les cégeps dans le circuit, en fait, qui est l'espèce de tournoi québécois. Puis, il y a les championnats canadiens. Ça fait deux tournois. Les championnats canadiens, bon, c'est beaucoup d'équipes de l'Ontario aussi, beaucoup d'équipes du Québec et de l'Ontario en grande majorité. Est-ce que le circuit actuel d'Ultimate au Québec, en fait, pour une équipe québécoise, est un peu trop petit?
Pour l'instant, je dirais que on fait avec ce qu'on a. On va continuer à toujours amener le maximum d'équipes puis à essayer de développer le sport pour que, dans l'espoir qu'un jour, toutes les universités du Québec embarquent et que, oui, on ait un gros circuit avec vraiment beaucoup, beaucoup d'équipes. Ça serait vraiment, vraiment plaisant d'avoir toutes les universités du Québec qui embarquent dans le bateau. Donc, je pense que la clé de ça, c'est juste le développement scolaire, le développement junior, le collégial. Donc, tout cet encadrement-là, ça fait en sorte qu'un jour, on pourrait avoir des tournois peut-être qui durent deux jours au lieu de un, tandis que en ce moment, c'est plutôt des petits tournois. Mm-hmm. On rencontre toutes les équipes, puis ça finit là.
Oui, oui, donc clairement. Corinne, qu'est-ce que tu crois qui reste à faire ou qu'on doit faire, en fait, pour aller... C'est une grosse question, là, je te lance sur un gros dossier. Parfait. Pour aller chercher les 13 universités, puis que partout au Québec, dans toutes les régions du Québec, il y ait des équipes universitaires de l'Ultimate qui puissent compétitionner?
Bien, en fait, je pense que ça, ce qu'il faut réfléchir aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec notre circuit. Est-ce qu'on veut que ça soit un circuit d'excellence ou on veut que ça soit un circuit de développement? Dans les dernières années, la Fédération, ce qu'on cherchait, c'est le plus de membres possible qui participent puis qui se développent. Fait que ça, c'est parfait. On développe un circuit. Problématique, c'est que c'est difficile de vendre pour une équipe qui excelle, d'aller chercher une légitimité dans le sport si on veut du développement. Puis quand on arrive en disant, ah, ben oui, moi, j'ai trois équipes à mon université qui participent au circuit, ils sont là, ben, pourquoi il y a trois équipes? Il devrait n'en avoir qu'une seule. Mm-hmm. Donc là, on se retrouve dans une espèce de combat de est-ce qu'on veut le plus de monde possible ou on veut une plus grande qualité d'athlète? Mais là, si on veut le plus de monde possible, parfait, on va pouvoir aller chercher les universités extérieures, mais ça reste que c'est un format qui est excessivement difficile. Quand on regarde les autres sports, je connais aucun sport où il y a des universités. C'est tout le temps variable. Mmh, ben chacun oui. des universités a des préférences au niveau des sports, puis ils sont capables de s'investir. Chicoutimi, il n'y aura pas d'équipe de football. Je veux dire, c'est une question de nombre de participants aussi, puis de choix dans quoi est-ce qu'on peut s'investir. Fait que, oui, je pense que c'est intéressant d'aller chercher tout le monde. La question, c'est combien est-ce que ça en prend pour avoir quelque chose qui est légitime. Je pense que c'est ça qu'on essaie de se rendre pour avoir quelque chose qui est un sport qui est vendeur, parce que on ne se le cachera pas, l'Ultimate, avec une saison qui est très courte, avec le type d'événement qu'on a, qui est des fins de semaine, on s'en va tout le monde à Montréal, on revient, bien, les universités n'ont aucune visibilité. C'est pas vrai que j'ai le goût de me déplacer à Ottawa puis à Chicoutimi pour jouer quelques matchs non plus. Donc, on se retrouve dans une espèce de bassin où on essaie d'aller chercher le plus de monde possible, mais avec une difficulté de déplacement puis aussi de gens sur place qui sont prêts à mettre en place ces programmes-là parce que ça prend du temps pour avoir quelque chose de qualité.
Mm-hmm. Il y a un mot que tu as dit que j'ai beaucoup aimé, c'est légitimité. À l'Université de Sherbrooke, avec le Vert et Or, vous êtes en fait la seule université au Québec qui est officiellement reconnue.
Présentement, oui. McGill
présentement, oui.
Ouais, c'est ça.
Oui. J'ai une question comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pour être reconnu? C'est quoi les démarches pour réussir à arriver à ce niveau-là?
Je vous dirais des démarches, ce qu'on a entamé avant, mais aussi beaucoup de chance, au sens où on avait déjà approché l'université, on avait déjà des ententes pour qu'on puisse utiliser leur terrain parce qu'on était quand même des universitaires. Donc, on y avait des ententes non dites. Puis, en fait, pourquoi je dis de la chance, j'aimerais ça qu'on ait tout le mérite, qu'on ait travaillé vraiment fort. Mais en fait, l'Université de Sherbrooke, au moment où on faisait nos démarches dans les années préalables et qu'ils savaient qu'on existait, ont aussi décidé de refaire une reformulation de leur programme sportif. Au lieu d'avoir que des équipes d'excellence où ils ont besoin d'investir énormément d'argent, ils ont fait une séparation, ils ont fait des équipes d'excellence puis des clubs sportifs. Okay. Donc, en créant cette séparation-là, ils ont ouvert la porte à notre sport et à d'autres sports qui étaient déjà reconnus par des étudiants athlètes. Donc, nous, on demandait à l'université de reconnaître quand même des étudiants athlètes pour participer aux championnats canadiens, par exemple. Donc, ils savaient qu'on existait, mais là, on a pu mettre sur table, finalement, selon leurs règles et nos règles aussi pour créer, finalement, une entité qui est vert et or, mais bien évidemment qui a un peu moins de services que les autres équipes sportives.
Oui, assurément. Assurément. Virginie, est-ce que c'est quelque chose à l'U Laval que vous essayez ou que vous avez essayé activement de faire?
Oui, nous autres, depuis qu'on a comme un CA vraiment organisé, ça a toujours été un de nos objectifs, la vision d'avoir un jour un rouge et or, Ultimate Frisbee. Donc oui, c'est certain, c'est dans nos objectifs, on veut se rendre là un jour, on est en pleine démarche pour réussir à se rendre là un jour. On trouve que Sherbrooke sont super chanceux, puis ils ont des beaux uniformes. Puis un jour, on aimerait ça, justement, avoir la même reconnaissance de la part de notre université pour justement également nous autres aussi avoir plus de légitimité. Pour avoir justement des locations de terrain un peu plus abordables. Pour l'instant, on paye comme quand même un bon prix. Et donc, en ce moment, on est en démarche pour obtenir ce statut-là pour avoir un peu de favoritisme.
Ou au moins un petit peu plus de faveur, parce qu'en plus des beaux chandails, il y a les terrains. Nous, à l'UQAM, là, c'est deux fois semaine à 6h30 le matin sur Père Marquette. C'est pas des conditions qui sont super évidentes, mais on fait ça parce qu'on aime ça.
Ouais, mais croyez pas parce qu'on devient un club sportif qu'on a tous les privilèges quand même. Si on est dernières entrées,
ouais,
on est
les dernières sur le service. Est-ce que vous pratiquez à 6h30 loin?
On pratique proche, mais on doit pratiquer quand même le matin. Une des raisons, c'est que les étudiants, le soir, ont des cours. On a quand même fait ce choix-là de pratiquer les matins parce que sinon, il y a trop de conflits.
Il y a les terrains, mais il y a aussi les coûts. Il y a une notion de, je ne sais pas, tu sais, Corinne, si l'Université Sherbrooke va payer comme toutes les dépenses ou une bonne partie des dépenses, en fait, mais ça doit être quand même mieux qu'une université qui ne reconnaît pas l'équipe.
Mais c'est sûr que la reconnaissance, on l'apprécie. Puis après ça, c'est une guerre de toujours en avoir plus. T'sais, l'Université Laval veut avoir une reconnaissance, mais là, nous, on l'a obtenue, mais là, on veut de la reconnaissance du programme. On veut de la visibilité à l'intérieur du programme. On veut que les athlètes participent et qu'ils comprennent que on n'est pas juste un club sportif, mais on est capable de performer aussi. C'est sûr qu'il y a des avantages parce qu'on a un encadrement, donc on a des personnes pour nous aider au niveau des finances. Mais il y a aussi des restrictions. Il y a certaines dépenses qu'on peut faire, certaines d'autres qu'on ne peut pas faire. On a besoin de faire approuver n'importe quelle modification qu'on veut faire à nos chandails. T'sais, il y a quand même des réglementations qu'on n'avait pas avant. Donc, une certaine liberté d'action qui maintenant doit se planifier vraiment d'avance. Je dois planifier mon recrutement d'avance. Donc, il y a une organisation au niveau financier. C'est sûr que l'université offre des activités de financement. Donc, nous, ça fait déjà 4 ans qu'on est dans le programme. Donc, ça fait 4 ans qu'on participe sans que l'université investisse de l'argent, mais offre des opportunités à nos athlètes de participer à leur souper spectacle, leur souper bénéfice. Donc, de pouvoir ramasser de l'argent de leur côté. Et là, par notre travail puis d'investissement au niveau de nos athlètes, et aussi parce qu'il y a un fonds qui a été débloqué dans la dernière année à l'Université de Sherbrooke, mais c'est la première année qu'on a officiellement reçu des bourses de la part de l'université. Wow. Donc là, l'université nous a officiellement remis un montant là, de 3 500 $ environ pour notre saison. Mais c'est des bourses qu'on remet aux athlètes. Et là, il y a des critères d'éligibilité, mais quand même, c'est la première fois. Puis ça, on en est bien fiers là, d'être la première université à capable d'offrir des bourses à nos athlètes. Puis éventuellement, on espère être capable de transformer ça aussi avec des bourses de recrutement, donc de grossir un petit peu avec cette opportunité-là.
Mm-hmm. Ben oui, justement, les coûts, Virginie, venant d'une université qui n'est pas encore reconnue. J'ai parlé avec notre responsable à UQAM là, qui m'a donné le chiffre pour l'année, qui est quand même assez élevé. Est-ce que c'est un élément qui rebute beaucoup de joueuses ou de joueurs, le coût?
Je crois pas que ça vient mettre un frein nécessairement à leur engouement ou à leur envie de jouer, mais je crois que par après, les gens, quand on vient demander qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, ben c'est toujours un peu ça qui revient. Les étudiants, ils n'ont pas tant d'argent, il y en a certains qui habitent en appartement, des choses comme ça. Donc, pour certains, ça peut être difficile. Sortant également d'un été qui, pour certains, en tout cas de notre côté, là, c'est des gens qui ont joué compétitif. puis il arrive d'un été qui leur a coûté cher, dépend si le Canadien a été dans l'Ouest, le Canadien civil, ou dans l'Est, des choses comme ça. Donc, c'est toujours un facteur. Mais pour l'instant, je pense pas que ce soit un frein. Nous, ce qu'on essaie d'offrir, c'est du coaching qui va créer un engouement aussi. On va aller chercher des gens qui vont venir chercher leurs joueurs, venir leur donner envie de jouer. Donc, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher de coaching, les gens souvent sont prêts à s'engager de toute façon.
Oui, assurément. L'argent, c'est pas tout le temps. C'est souvent une excuse plus que des fois aussi un frein.
Je pense qu'on vend une expérience aussi au niveau universitaire. Il y a beaucoup d'athlètes qui rentrent. Ils n'ont pas eu la chance nécessairement de jouer pour leur cégep parce que ça existe à peu d'endroits. Fait que je pense que quand ils arrivent à l'université, il y a une fierté aussi de représenter son université, même si on n'est pas nécessairement reconnu. Mais les jeunes, ils ont aussi le goût de vivre cette expérience-là en groupe. Je pense que ça, c'est quelque chose qui ressort et qui sont contents. Au-delà de tout ce qu'on peut offrir entre elles ou entre eux, ils sont vraiment contents d'être là.
Mm-hmm. Ah, je vous assure que ça a été vraiment une belle expérience, le frisbee universitaire. Là, pour eux, c'était vraiment le fun. Bon, je pense qu'on a dressé un portrait assez intéressant du circuit, pas nécessairement du circuit, mais de l'expérience, des bons points, des peut-être mauvais points du circuit actuel dans l'universitaire québécois. Là, on va tomber dans les modes solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer? Qu'est-ce qui peut être fait? Quelles sont les options et le pour ou contre de chaque alternative? On va s'attaquer au RSEQ immédiatement. Le RSEQ qui gère une bonne majorité des sports scolaires. Le frisbee étant un sport un petit peu plus marginal, le RSEQ n'a pas nécessairement voulu se pointer le nez dedans pour l'instant. C'est Guillaume Prougoulet dans la vidéo de la FQ qui disait justement que le RSEQ tolère un peu les activités universitaires qui se passent là, étant donné qu'elle n'a pas voulu trop s'en mêler. Mais du moment où est-ce qu'elle décide que ça tombe sous sa juridiction, il va falloir revoir le modèle complètement. RSEQ. J'ai les commentaires de certaines personnes sur la RSEQ. En fait, deux commentaires sur la RSEQ qui sont les deux aux antipodes. Donc, en premier lieu, la RSEQ, il faut que le frisbee universitaire ou même scolaire commence à se structurer et le RSEQ est la meilleure plateforme pour le scolaire. Cependant, il y a un autre commentaire qui nous dit que la RSEQ, ce serait trop coûteux. Et justement, Guillaume parle que ce ne serait peut-être pas nécessairement adapté aussi aux besoins un petit peu plus atypiques des saisons d'Ultimate, que ce soit la saison d'été. Donc voilà. RSEQ, Virginie, on va commencer avec toi. C'est quoi ta position? Est-ce que le frisbee universitaire, l'Ultimate universitaire devrait être encadré un petit peu plus par la RSEQ?
Selon moi, le RSEQ devrait prendre sa place et venir encadrer un peu plus le sport universitaire au Ultimate Frisbee. Je pense qu'on gagnerait beaucoup en visibilité, en encadrement, puis en structure. Et aussi en légitimité. Je veux pas pour des structures comme le Rouge et Or en ce moment. Tant qu'on est un sport qui est encadré par une entité qui est la FQ, qui pour nous est la fédération, puis c'est très sérieux, puis ça, mais pour des programmes universitaires, c'est complètement inconnu. En dehors de RSEQ et U Sports au Canada, tout le reste est comme un peu illégitime. Donc, ça nous offrirait vraiment une bonne visibilité d'avoir un programme qui est très encadré et organisé par le RSEQ. Mm-hmm.
Mm-hmm. Pour la visibilité, ça, c'est sûr que c'est un point qui se vaut. Corinne, RSEQ, oui ou non?
Je ne peux pas répondre à cette question-là par un oui ou un non. Si ça faisait pas longtemps que j'étais dans l'Ultimate, je rêverais du RSEQ. C'est vrai que c'est une belle plateforme, ça fonctionne pour les autres sports. Puis inévitablement, effectivement, comme Virginie le dit, ça donne une légitimité. ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Nous, on le vit un petit peu indirectement. On n'est pas dans la RSEQ, mais on doit suivre les règles comme si on l'était à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'inévitablement, l'avantage d'une légitimité vient aussi avec énormément de responsabilités au niveau de nos étudiants athlètes. Il y a beaucoup de restrictions qui sont mises par la RSEQ. Là, ça nécessite encore plus de temps. Fait que si on compare, par exemple, juste le temps que ça nécessite pour les entraîneurs à s'investir, bien là, on ne parle pas d'une saison qui dure 6 semaines, on parle d'une saison qui dure à l'année. Donc, nous, notre saison doit être tout le temps. Donc, on doit convaincre nos athlètes de devoir continuer. Avec le RSEQ, il y a aussi une limitation au niveau du calendrier. Le RSEQ te détermine comme étant un sport d'automne ou un sport d'hiver. Donc, nous, naturellement, on a tendance à aller vers un sport d'automne parce qu'en étant 7 contre 7. Mais là, ce que ça veut dire, c'est qu'on embarque dans leur calendrier. Bien, leur calendrier, ça commence le 31 août, puis ça va se terminer à la fin octobre. Donc là, nous, si on rentre avec un calendrier comme ça, Guillaume l'a mentionné beaucoup, mais on se retrouve à ne pas pouvoir participer aux championnats canadiens ou avoir les championnats canadiens avant les championnats provinciaux. Donc là, on se retrouve un petit peu avec un dilemme là, d'organisation où peut-être que si on faisait partie du RSEQ, on ne pourrait plus participer aux championnats canadiens. Qu'est-ce qu'on préfère? Ça, c'est une question qu'on a à se poser. Puis je pense que c'est aussi beaucoup d'organisations supplémentaires. Puis on a encore de la difficulté à trouver des bénévoles à s'investir. On cherche des coachs pendant l'été. Il faut trouver des bénévoles pour s'investir, pour être capable de donner leur temps, être capable de filmer les vidéos, être capable de prendre des statistiques pendant les matchs. Puis, en plus de ça, il faut demander à nos athlètes d'être disponibles à toutes les fins de semaine pour des compétitions, selon les formats que le RSEQ préfère, là, qui appelle des allées-venues. Là, ça veut dire que l'équipe féminine et masculine se déplace pour aller affronter l'autre équipe masculine et féminine. Donc, cette organisation-là, c'est sûr qu'il y a toujours des délibérations, des augmentations, mais je vois encore mal comment est-ce qu'on va se rendre là. C'est quoi les étapes exactement qu'on doit franchir pour ça?
Mais pour l'instant, si le RSEQ prenait le dessus, ce que la RQ dit, Guillaume m'a dit dans son vidéo, c'est qu'ils ont une sorte d'entente comme quoi ils ne pouvaient pas comme arriver puis dire non, c'est terminé, puis c'est comme ça maintenant que ça va fonctionner. Il faut qu'il y ait une discussion ouverte avec la RQ. Et la RQ étant très impliqués, puis c'est eux qui organisent comme les tournois de qualification pour les Canadiens civils, toutes ces choses-là. Donc, étant donné que le RSEQ, en ce moment, c'est dans la ville de Québec, en tout cas pour le RSEQ Chaudière-Appalaches Québec, ils font le ultimate au secondaire. C'est eux qui encadrent tout. Puis ça fonctionne en tournoi de une journée la fin de semaine. Donc, je pense que c'est pas nécessairement irréaliste, ou je suis peut-être très optimiste, qu'un jour, si justement il y a le RSEQ qui démontre de l'intérêt pour ça, lorsqu'il va avoir une discussion avec la fédération, je peux pas croire que ça finisse en on va avoir un horaire qui a pas de sens.
Assurément. Une des solutions, là, est-ce que ce serait pas mieux au Québec de créer notre propre circuit puis d'investir dans un brand de qualité pour le rendre plus intéressant et d'attirer plus de joueurs? Est-ce qu'on serait mieux nous-mêmes au Québec de créer... Mais parce que si on crée notre propre circuit, c'est encore là la problématique des jours de match, là, ou des jours de tournoi. Je pense que, bon, à part dans le professionnel, dans la UDL, là, l'idée de jouer un match par fin de semaine, c'est loin d'être l'idéal. Ça peut être quelque chose aussi que le RSEQ voudrait. C'est loin d'être l'idéal, c'est un pléonasme. Mais voilà, donc, Corinne, qu'est-ce que tu dis qu'on crée nous-mêmes notre propre circuit, qu'on fait notre espèce de tournoi à nous, puis on essaie de faire pousser l'ultimate, en fait, de le faire grossir de cette façon.
Mais on le fait déjà un peu avec ce que la fédération a mis en place depuis plusieurs années. Là. C'est sûr qu'avec le temps, ça a été modifié, ça a été bonifié, mais ça reste qu'on a présentement deux événements, un préparatoire, un qualificatoire qui nous permet de nous qualifier, excusez-moi, pour les championnats canadiens. L'Université Laval avait l'intérêt de créer un troisième tournoi au niveau du calendrier. Problématique, ça reste que trouver des fins de semaine pour rentrer ça dans le calendrier, c'est excessivement difficile parce qu'on a encore beaucoup d'athlètes civils qui veulent participer aux séries américaines. Donc là, il faut essayer d'éviter de rentrer en conflit avec certaines journées. Et là, ben, c'est du quoi, il ne reste plus de fin de semaine. Mm-hmm. Fait que notre circuit, on l'a déjà. Ce qu'il faut rester à savoir, c'est à quel point les athlètes sont prêts à s'investir davantage pour augmenter la quantité de compétition Mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait une valeur ajoutée à cette compétition-là.
Mm-hmm. Virginie?
Oui, exactement. Pour l'instant, est-ce que le fait que cette saison-là soit constituée d'un événement genre, préparatoire d'une journée dans la fin de semaine, un autre événement d'une journée dans la fin de semaine plus tard pour se qualifier pour les Canadiens et une fin de semaine pour aller aux Canadiens plus le voyagement, là, disons?
Mm-hmm.
Est-ce que le fait que cette saison-là soit si petite que ça, si condensée, c'est pas un des plus qu'on a à offrir pour les gens qui, un, sont peut-être tannés de l'arrêter, peut-être fatigués, peut-être qu'ils jouent même plus compétitifs à l'été parce qu'ils trouvaient que c'était tellement d'engagement que là, ils sont encore à l'université, ils ont décidé que ça leur tentait de venir faire une saison universitaire, même s'ils n'ont pas joué pendant l'été. Donc, peut-être que ça pourrait être... peut-être.
Je vois pas ça comme un avantage au sens où ce qu'on essaie de développer, c'est des athlètes. Je pense qu'à Ultimate, on se le répète pas assez, mais on développe des gens qui ont le goût de faire du récréatif, mais c'est pas normal que si tu es un athlète d'excellence, tu as un moment donné le goût d'arrêter puis de plus t'entraîner. Fait que nous, avec l'Université de Sherbrooke, ce qu'on essaie de rentrer comme habitude aux filles, c'est d'apprendre à s'entraîner, c'est d'apprendre à aller courir, aller à la musculation, tout ça, mais je pense que... On n'a pas le temps de le bâtir parce que notre saison se termine trop tôt. On n'a pas le temps de créer des athlètes. C'est pas normal que nos meilleurs athlètes arrêtent de s'entraîner pendant 3 mois pour recommencer par la suite. On est capable d'essayer d'offrir un encadrement meilleur pour les forcer à devenir des meilleurs athlètes. Et là, je ne sais pas, en raccourcissant la saison, qui on encourage? On encourage les meilleurs qui n'ont pas le goût de s'investir, puis on laisse peut-être de côté ceux qui voudraient s'investir à l'année. Puis nous, c'est un petit peu notre branding à Sherbrooke, au sens où on n'a pas là, nécessairement des superstars qui nous arrivaient, mais on a eu des athlètes qui voulaient s'investir, puis ils ont appris beaucoup, puis on était capable ensuite de ça que ces athlètes-là se développent, puis qu'ils réussissent à jouer dans Iris ou de jouer dans leurs meilleures équipes ou d'être là à Montréal, puis aller jouer pour les meilleures équipes aussi. Fait je pense que nous, ce qu'on a essayé de travailler, c'est de développer ces athlètes-là, mais le calendrier nous limite au niveau des compétitions parce qu'on ne se le cachera pas. C'est bien beau entraîner des athlètes, mais si tu ne me donnes pas de compétition, tu n'as pas un anan au bout. Mm-hmm. Les athlètes, à une manière, ils finissent par décrocher, puis c'est ce qu'on a constaté. Fait qu'on a trouvé des alternatives, mais je continue à croire que le problème, c'est peut-être de continuer à visualiser notre circuit en tant que 7 contre 7 à l'extérieur comme étant la seule possibilité qui existe pour mm-hmm. le circuit universitaire.
Mm-hmm. Vraiment intéressant comme discussion. On va y aller avec une autre alternative, puis après ça, je vais vous demander de, je ne vous l'avais pas dit d'avance, mais de préparer votre circuit idéal. Donc, on va parler du circuit américain, juste avec certains points, là, on va se lancer comme ça. Là, je vous prends par surprise comme ça, mais juste comme ça, on va parler du réseau américain. Si je ne me trompe pas, il y a quelques équipes canadiennes qui se retrouvent dans le circuit américain. L'Université d'Ottawa et McGill, je ne sais pas s'ils sont encore là, mais selon mes notes, c'est ça que...
Ben, ça, beaucoup dans l'Ouest, ça veut dire que UBC participe souvent. Oui. McGill, il a déjà participé, mais pas dans les dernières années. Okay. Puis je le sais aussi que l'Université d'Ottawa il a participé souvent aussi. D'ailleurs, à chaque fois qu'on en essaie d'en comprendre comment est-ce qu'ils organisent leur calendrier, on s'y perd un peu. Parce que j'ai fait mes études, le circuit universitaire américain, moi, ça m'a jamais paru une opportunité réelle parce que j'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Fait que je suis allée faire mes devoirs puis je suis allée lire leurs documents pour essayer de comprendre comment est-ce que ça serait une alternative parce qu'effectivement, on est toujours à la recherche de compétition pendant l'hiver, mais pourquoi pas. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que ben, les États-Unis, c'est au sud puis ils ont clairement un avantage que nous, on n'a pas parce que leur saison commence en janvier. Donc, clairement, des tournois extérieurs en janvier, nous, c'est pas tout à fait dans notre réalité. Puis sinon, les compétitions finales, donc si on veut les series, les college series, on commence à la mi-avril pour se terminer à la mi-mai. Mais nous, les saisons universitaires sont terminées. Fait que là, on se retrouve avec un problème de calendrier où là, il faut que je convainc mes athlètes de rester dans leur région pour continuer la compétition et de devoir, comme Virginie le mentionnait au début, s'entraîner à l'intérieur toute l'année. Mm-hmm. Pour avoir peut-être aucune opportunité de lancer dans le vent avant son premier tournoi. Mm-hmm.
Puis d'autant plus que s'il y a des tournois en janvier, honnêtement, ça ne doit pas être dans le Vermont. Là. Ça doit être quand même un petit peu plus bas.
Ces tournois-là ne sont pas obligatoires. Là. C'est une saison qui est proposée pour essayer d'avoir des événements pour se rencontrer. Les événements obligatoires commencent à la mi-avril, mais je veux dire, à la mi-avril, même nous, les équipes compétitives avec Iris, on peut s'entraîner la première fois peut-être à la mi-avril. Tu sais.
Mm-hmm. Non,
là, c'est vraiment, pour vrai, je présume que quand ils décident de faire ce choix-là, c'est que c'est plus un anan qu'on met au bout en disant on va s'entraîner toute l'année, puis à la fin, on va se gâter puis on a peut-être une opportunité de se rendre finalement faire un petit voyage dans le sud là.
Puis de jouer aussi sur les deux tableaux parce qu'on va faire la saison américaine et aussi la saison d'automne, là, la saison canadienne, disons. Ouais. Ce qui est quand même assez lourd comme processus. Il faut vraiment être mordu pour se lancer sur ces deux tableaux-là. Virginie, le circuit américain, le réseau américain, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'intéresse ou pas du tout?
Nous, ça... On y avait songé, là. Un peu comme l'idée de la compétition nous avait intéressé. On y avait réfléchi à l'université, mais la ville de Québec étant tellement loin de toute ligne vers les États-Unis que on a balayé de la main l'idée très rapidement de se joindre au circuit américain, même si côté développement de joueurs, côté compétition, ça serait vraiment intéressant, mais les coûts seraient, encore une fois, c'est l'argent qui revient dans le tableau. Là.
Mm-hmm. Mais... Assurément, parce que bon, c'est beaucoup de voyagements. Faut l'hébergement aussi qu'on n'a pas parlé, mais bon, qui peut être aussi du trouble. Donc, ouais. Le réseau américain, pour vous deux, c'est pas nécessairement une option qui est très viable ou qui est très envisageable.
C'est vraiment difficile. Je pense qu'il y a quand même des bons points, puis on peut s'en inspirer pour quand on va créer notre circuit idéal, là, au sens où ça fonctionne. Il y en a des équipes qui y participent, là. Ils ont réussi à créer deux divisions en fonction de la grosseur des universités. Fait que tu sais, il y a des éléments qui sont intéressants à l'intérieur. Ils ont réussi à mobiliser les gens à vouloir y participer. Là, les États-Unis, c'est un gros pays, puis les gens, ils voyagent pour y participer. Donc, il y a quelque chose à quelque part qu'ils ont réussi à créer que nous, on n'est pas capable de faire. T'sais, nos championnats canadiens universitaires, ils ont été mis tout le temps dans l'Est parce que s'ils changeaient de place, il y a personne qui y participait. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qu'eux, ils ont que nous, on n'a pas réussi à développer. C'est justement d'impliquer les athlètes davantage à ce sport-là parce que le sport universitaire, on l'a dit, on vend une expérience plutôt... qu'une compétition. Là. Je pense que c'est ça notre défi. On essaie de rêver, mais on a encore un problème de niveau de compétition qu'on ne peut pas offrir aux meilleurs athlètes. Puis aux athlètes en développement, bien, ça ne fait pas de sens de leur demander d'investir 5 000 par année pour s'entraîner.
Assurément. Justement, circuit idéal. Là, je vous lance là-dessus. En vous lisant le commentaire de quelqu'un qui commente le circuit actuel comme un circuit pourri, qui est court et automnal. Donc, je pense que ça, c'est deux défauts selon ce commentateur. Le circuit idéal, selon lui, ce serait le printemps. De pouvoir jouer le printemps que ça devienne une espèce de préparation pour l'ultimate en club et non une espèce de post-saison en club, quitte à repousser un petit peu plus, justement, la saison a commencé quelques semaines, la saison en club l'a commencé quelques semaines plus tard. Qu'est-ce que vous en dites, Virginie? Qu'est-ce que tu dis de cette...
Moi, je trouve pas ça fou. Là. C'est plutôt intelligent. Si, dans un monde idéal, ça serait comme ça que ça fonctionnerait. Donc, on pourrait, comme ça, avoir le début de notre sélection au début de l'année. En ce moment, c'est ça qui nous manque. On arrive début septembre, même pas nous, on fait nos sélections une ou deux semaines avant que l'université commence officiellement. Mais même à ça, on a tellement pas beaucoup de pratique. Là, si on pratique une fois par semaine jusqu'aux Canadiens, ça nous donne une poignée de pratique pour monter une équipe que déjà, nous, on a l'avantage d'avoir des joueurs qui sont compétitifs, qui ont beaucoup d'expérience. Et je comprends le point de vue de l'Université de Sherbrooke. Eux, ils doivent, c'est de A à Z pratiquement toutes les années avec, j'imagine, les joueurs et les joueurs qui reviennent les années d'après. Mais c'est de ce côté-là, c'est vraiment difficile de faire du développement d'athlètes. Donc, si on pouvait commencer la saison plus tard, ben même à ça, commencer au début de l'année, s'entraîner, avoir des pratiques, parce que ce soit justement à l'intérieur, avoir quelques événements à l'intérieur et que rendu avril, mai, là, on peut sortir dehors. On avait dit mi-avril à peu près, on était capable de sortir dehors normalement au Québec. Donc, rendu là, avoir nos événements à l'intérieur, puis un championnat canadien qui serait plus comme peut-être début mai, là, mais encore là, on garde en tête que début mai, moi, ma session est finie.
Mm-hmm. Ah, assurément, assurément. Corinne, est-ce que jouer au printemps, ce serait quelque chose de qui te plairait mieux que de jouer à l'automne?
Bien, c'est sûr qu'on ne se cachera pas que si on peut avoir une température qui est belle et incroyable, ça serait pas
agréable.
Oui. C'est ça. On ne parlera pas de dans notre temps quand on jouait à l'universitaire, là, puis qu'il neigeait puis qu'il grêlait. Là, vivement les changements climatiques qui nous aident un peu. mais je suis d'accord avec l'idée que le moment idéal, en fait, c'est pas l'automne parce qu'on est limité par l'arrivée de l'hiver. Mais je crois pas que de jouer le printemps, ça va être nécessairement avantageux au sens où est-ce qu'on va avoir la meilleure qualité de tournoi? Est-ce qu'on va avoir des meilleurs athlètes parce qu'on joue? Moi, comme athlète, là, je confirme que quand je joue en avril, même début mai, je suis loin d'être au meilleur de mes capacités, pas au niveau physique, mais au niveau des lancers. J'ai pas lancé dans le vent, puis là, on me demande soudainement d'être au meilleur dans quelque chose que je peux difficilement pratiquer. Même si je vais peut-être à contresens, moi, mon circuit idéal, oui, est exactement à ce moment-là, mais ça serait à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Je sais qu'il y a des coûts supplémentaires à ça. Je pense que si on travaille sur des formats différents, il y a moyen de rendre ça intéressant à des coûts qui sont... Je veux dire, si on est tous prêts à payer 400$ pour jouer ou 500$ pour jouer dans le circuit de la fédération en civil, ben, pourquoi on ne serait pas capable de donner un petit 20$ pour une compétition de fin de semaine universitaire? Mm-hmm. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de travailler. Je le sais, on a tout le temps peur des coûts, mais si on ne rêve pas, on ne crée pas non plus.
Non, assurément, assurément. Vraiment. C'est drôle que tu parles de ça parce qu'il y a quand même un circuit intérieur qui est un petit peu plus l'hiver. Je connais pas. Bon, Virginie rit. Est-ce que je te l'apprends qu'il y a un circuit intérieur ou non?
La surprise.
Ça fait plusieurs années qu'on y a participé à intervalles, mais malheureusement, c'était en 4 contre 4, donc des plus petits terrains. Au niveau du Women, c'est possible. Au niveau du Open, là, ça devient quasiment dangereux là, dans du 4-4-4 Open, surtout dans les stades qu'ils nous proposent. Les niveaux de jeu ne sont pas élevés, puis le Team Canada déplace les événements de plus en plus loin. Fait que même si on y a participé, on a même déjà gagné l'Université de Sherbrooke. Personne ne le sait parce que je veux dire, il n'y a pas de visibilité à ce circuit-là. Malheureusement, c'est trop loin, les gens veulent pas s'investir. Fait que oui, un circuit québécois, je suis complètement d'accord. On fait ça plus petit, on fait ça à l'intérieur, on va chercher les meilleurs athlètes, puis on est capable de créer quelque chose qui est intéressant. Je suis convaincu que le 4 contre 4, c'est pas quelque chose qui est viable à regarder, mais en 5 contre 5, je veux dire, on a la même largeur de terrain qu'à l'extérieur, c'est juste qu'il y en a moins long, mais on est tellement moins nombreux, je pense qu'on est capable de créer un spectacle qui devient intéressant aussi à vendre pour l'université. Parce que je réfléchis aussi beaucoup à ça quand je crée un circuit, mais inévitablement, l'université, nous, ce qu'elle demande tout le temps, c'est de la visibilité. Et là, on a réussi éventuellement à aller chercher un des tournois de la Coupe Québec pour le ramener à Sherbrooke, mais à chaque fois, l'université, c'était « ben nous, on veut que vous venez jouer chez nous », tu sais. Je comprends, mais c'est pas moi qui décide. Mm-hmm. Sûr, cette visibilité-là, ben, en faisant des tournois style invitation, puis là, on a un calendrier qui est long, là, on a tout l'hiver pour essayer de le combler, contrairement à quand on se bat pour un 6 semaines. Mm-hmm.
Oui, puis en ce moment, le circuit 4 contre 4 qu'on nous offre, le 4 contre 4, quand il nous l'offre, c'est pendant l'hiver, c'est la saison du 4 contre 4. Et l'offre de service qu'on a en ce moment de la part de la FQ, c'est du haut niveau de 4 contre 4, vraiment intéressant. Donc, zéro intéressant pour les universitaires d'aller jouer universitaire 4 contre 4 pour un niveau de compétition qui va être vraiment moins élevé que celui-là qu'on va avoir au Québec. Pour, en plus, être obligé de se déplacer parce que tous les tournois sont en Ontario, Dieu ne sait où.
Mm-hmm. Oui, non, bien d'accord. Donc, justement, pour conclure, on a un peu effleuré, mais Virginie, ton circuit idéal, est-ce que là, tu as parlé du printemps? Est-ce que tu es d'accord à jouer à l'intérieur? Et la structure, tu la verrais comment? Est-ce qu'on doit avoir une structure qui est très forte, qui est à la limite un peu lourde? Ou tu vois un peu comme... Bon, là, c'est parce que vous avez un CA à U-Laval. Moi, je viens de l'UQAM. Ça se fait un peu aux années. Cette année, on commence à parler de nos chandails d'avance. Je pense que déjà là, c'est quelque chose qui est bon. Mais je pense que pour l'UQAM, une structure, ça ferait vraiment pas de tort. Mais peut-être qu'avec le CA, je ne sais pas, est-ce que vous, la façon que vous gérez à l'U-Laval, vous trouvez que c'est adéquat? Et bon, aussi, justement, le circuit intérieur, comment tu verrais ça?
Ben, sur ce point-là, moi, je suis pas d'accord. Le circuit universitaire, si on décide de transformer ça 100% en un circuit intérieur, je pense pas que ce soit aussi populaire du côté des étudiants. Puis je trouve ça intéressant justement de transformer ça en quelque chose qui va être semi-préparatoire pour ta saison d'été. Donc, un, deux, trois événements qui vont être à l'extérieur, d'après moi, ça serait vraiment beaucoup plus intéressant. Mm-hmm. Pour ce qui est de la structure, en ce moment, on a deux événements québécois puis un canadien. Ça serait l'idéal de continuer dans cette vague-là tout en ayant des événements intérieurs durant la saison, dépendamment de quand on décide de commencer la saison. Mais en sortant en avril, reste que la contrainte de météo à l'extérieur va toujours être là, c'est sûr. Mm-hmm. Donc, en sortant en avril, puis en ayant, mettons, le Canadien très déblumé quand on a fini notre session, ce serait idéal. Comme ça, après, on n'aurait pas de devoir.
On n'aurait pas de devoir, effectivement. Ça me semble être le plan parfait, là. Juste des pots. Donc, si je résume, on a brassé quand même vraiment beaucoup d'idées. J'ai vraiment trouvé une discussion intéressante. Donc, j'essaie de résumer un peu. Bon, sur les pistes de solutions qu'on a amenées, là, on oublie le réseau américain. L'RSEQ va. Je viens d'allumer que celle qui serait pour, c'est celle qui est pas nécessairement reconnue par une université. Celle qui est moins intéressée, qui trouverait que ce serait peut-être un petit peu trop lourd, c'est celle qui a déjà une structure un petit peu plus intéressante. Je pense que on peut en tirer nos propres conclusions, mais peut-être que la solution est là aussi. Peut-être que du moment où est-ce que le Rogéor va reconnaître U-Laval, peut-être qu'on ne voudra plus rien savoir du RSEQ, qui sait? Peut-être. Donc, c'était aussi une solution. Jouer peut-être plus le printemps. Le printemps, ce serait, je pense que ça fait l'unanimité ici. Le nombre de tournois semble être aussi. Je pense que ça, on ne lui touche pas. On garde le 2-3 tournois, 2 Québécois, 1 Canadien. Je pense qu'on a fait le tour quand même. De la question. On a réinventé notre circuit idéal avec une belle structure et voilà. Donc, dès 2021, on va jouer.
On va jouer le Canadien quand on n'aura plus de devoirs.
On va jouer Canadien quand tout le monde n'a plus de devoirs. On arrête ça, on s'en va en Ontario, à Brampton, 2 jours.
En autobus.
En autobus, oui.
En avion, idéal. On rêve. Ouais,
on va pas loin. Mon Dieu, ils ont du budget à Sherbrooke?
Mais hein, c'est tout pour mon salaire.
Oui. Corinne Massé, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Pour
Ça fait
pour
plaisir, merci pour l'invitation.
Virginie Maltais, merci énormément.
Plaisir, merci de l'invitation aussi.
Donc, au plaisir de se reparler, puis ben, sinon, on se croise et se reparler dans 2 semaines pour un autre épisode des Débats ultimes.